Radio Free Girls.
Minutos en Colombia.
Radio
Dakar. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 avec Ailleurs dans le Monde. Ce soir en Indonésie, reportage sur des formations en plomberie réservées aux femmes. On sera également en Jordanie où des passages piétons passent au numérique. C'est beaucoup plus sûr. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur cette épidémie de choléra qui frappe le Yémen. Tout de suite, on reparle d'Europe.
Nicolas Demorand, Un jour dans le Monde.
Emmanuel Macron était hier à Berlin pour son premier voyage officiel, rencontre avec la chancelière Angela Merkel, conférence de presse commune, dîner. C'est le parcours classique de la diplomatie française dont l'un des piliers, le fameux couple franco-allemand, le moteur, comme on dit, de l'ambition ou de la mollesse européenne. Hier, des mots furent prononcés, mais les actes à venir semblent, eux, plus nébuleux. On va essayer donc d'y voir plus clair. Bonsoir Jean Quatremer.
Bonsoir.
Correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, votre blog Les coulisses de Bruxelles, votre dernier livre « Les salauds de l'Europe » chez Calman Lévy, sous-titre « Guide à l'usage des eurosceptiques ». Alors Jean Quatremer, vous parlez l'européen raffiné, vous savez comprendre les implicites, les sous-entendus. Donc dites-nous, est-ce que Merkel et Macron ont dit quelque chose hier à la conférence de presse ? Parce que de l'extérieur, pour nous les profanes, ça semblait surtout incantatoire.
Non, non, ils ont dit des choses, justement.
Mais quoi?
Il s'est passé. Alors, j'ai l'impression d'un peu d'être dans la peau d'un criminologue, vous savez.
Oui, c'est ça.
Qui était chargé, dans les années 60, de décrypter les mouvements, à la tribune officielle au moment des grands défilés du 1er
mai. Exactement.
Non, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est arrivé avec un agenda. Son agenda, c'était d'essayer, réconcilier, effectivement, les Français et les Allemands, de faire redémarrer le couple franco-allemand trois étapes. La première, c'est dire aux Allemands, voilà, on vous a beaucoup promis, ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'on va revenir sur les 3% de déficit public, on n'y parvient pas, on est quand même l'un des derniers pays, hein, quand même, à être sous le plancher des 3%. Donc voilà, je vais remettre la France en ordre, je me donne 3-4 mois, d'où les ordonnances, on va remettre la France sur les rails économiques. On va faire les réformes qu'on promet de faire depuis 10 ans. Vous pouvez me faire confiance. Alors, d'où cette répartie de Angela Merkel, hein, quand elle a cité Hermann Hesse en disant que tous les débuts étaient magiques, mais que ça ne pouvait que continuer que s'il y avait des résultats. Donc c'était une façon.
Vous voyez que vous parlez l'européen mieux que nous, d'accord.
Voilà. Donc okay. il faudra donc des résultats. Donc en gros, c'est welcome mon gamin. Ça fait mon 4e président, donc j'ai entendu beaucoup de promesses, mais on va voir après mes élections qui ont lieu en septembre si tu tiens tes promesses. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre des choses sur la table.
Premier point.
Voilà. Deuxième point, en même temps, ce que demande Macron, c'est « Ok, vous pouvez me faire confiance, je vais le faire, mais il faut quand même un peu bouger sur un certain nombre de dossiers qui tiennent au cœur des Français. » Et ces dossiers, par exemple, c'est les travailleurs détachés. Donc il y a une proposition de réforme de la directive travailleurs détachés qui est sur la table, et il demande aux Allemands de mettre tout leur poids dans la balance pour accélérer l'adoption de cette directive, qui prévoit notamment que c'est à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens qui viennent en France doivent être payés au salaire minimum. Mais vous pouvez très bien payer un ingénieur à un salaire minimum, donc au SMIG. Donc il dit non, la directive, ce que propose la Commission, c'est de mettre tout le monde au même salaire. Alors, donc ça, c'est le premier dossier. Deuxième dossier, par exemple, dans le domaine de la défense, ça tient énormément au cœur des Français, la question de sécurité et de défense. Donc il faut mettre au point des coopérations renforcées, voire des coopérations bilatérales dans le domaine de la défense, de l'industrie notamment, de la défense et de la recherche. Donc ça, il faut bouger très très vite sur ces dossiers-là. Et tout ce qui est la sécurité intérieure aussi, le contrôle aux frontières communes, etc. Donc c'est des tas de petits dossiers, là, chancelière a dit « Ok, au mois de juin, et d'ailleurs elle a même dit, on va convoquer un conseil des ministres franco-allemands au mois de juillet, et on va vous donner quelque chose, vous allez pouvoir donner à votre opinion quelques éléments. » Mais est-ce qu'on va aller plus loin? Alors c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est qu'effectivement, la chancelière a été plutôt sympa, elle a dit, contrairement à son ministre des Finances, « Écoutez, la zone euro, ok. » Il va falloir la réformer, c'est pas suffisant. Elle a failli nous exploser dans les pattes il y a encore quelques années. Donc maintenant, il faut aller plus loin. Donc créer un ministre des Finances de la zone euro qui est chargé de coordonner les politiques économiques et budgétaires des pays de la zone euro. Un budget de la zone euro qui pourrait, par exemple, financer une des idées qui est en cours à Bruxelles, ça serait de financer une partie de l'assurance chômage. Donc évidemment, s'il y a beaucoup de chômage dans un pays, ça veut dire que, par exemple, les Allemands seraient obligés de s'intéresser au chômage qui explose, par exemple, en Espagne ou en France. Donc chacun se sent un peu co-responsable de la situation du voisin. Et aussi un parlement de la zone euro. Mmh. Alors, et ça passe par une modification des traités. Et la chancelière dit, OK, maintenant nous sommes ouverts à ces idées, y compris sur les emprunts. Hein. Les emprunts, donc, pour le financer des travaux d'investissement pour le futur. Nous sommes ouverts à toutes ces idées. Mais, encore une fois, tout dépend des débuts et tout dépend de la réalisation de vos promesses. Mmh. Donc,
oui, attention à la magie des commencements. Et donc, dans cette conférence de presse ou dans cette rencontre, des choses ont été dites. On va y revenir en détail pour voir ensuite comment on fait Jean Quatremer. Et avant ce point-là, j'aimerais qu'on dise un mot du passé immédiat. Vous l'avez dit vous-même, il fallait reconstruire le couple franco-allemand. Il est sorti affaibli de 5 années de quinquennat de François Hollande. Quel bilan on peut en tirer?
Je dirais que François Hollande n'est pas seul responsable de l'affaiblissement du couple franco-allemand. Encore une fois, c'est plutôt la résultante de 10 à 15 ans de promesses non tenues. Alors, François Hollande a bougé. Faut pas non plus noircir trop le tableau. Mais il a mis 2 ans et demi à comprendre que l'économie française ne se remettrait pas sur les rails comme par magie. Et c'est les quelques réformes qu'il a faite, y compris la loi si décriée, la loi El Khomri, eh bien, on semble-t-il relancer l'économie française. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, contrairement au grand gémissement national, qui est une de nos spécialités, les voyants économiques passent au vert les uns après les autres. Et ça va bénéficier à Emmanuel Macron. Mais ça a été, je dirais, trop peu, trop tard. Moi, à chaque fois que je rencontre des gens au ministère des Finances en Allemagne, donc pour Paris, c'est sur la France, c'est « Mais bougez-vous, nom de Dieu !» C'est-à-dire que vous, au lieu de faire des réformes rapides et brutales pour remettre votre économie immédiatement sur les rails, comme l'a fait le chancelier Schröder au début du 21e siècle, au début des années 2000, vous les étalez dans le temps, si bien que les effets de ces réformes se font sentir au bout de 10 ans, ce qui est quand même idiot. Donc, bougez. Ouais. Alors, un jour, je vous assure, je suis tombé de ma chaise quand on m'a dit, oui, vous les Français, vous devez vous bouger le cul en français dans le texte.
Ah, en français dans le texte. Oui, ça fait du bien. François Hollande avait pris des engagements pendant sa campagne présidentielle en matière européenne. C'était en 2012. Et la légende, en tout cas, telle qu'elle a été écrite, ou la geste, ou le récit, ou la grande histoire du quinquennat, c'est qu'il s'est heurté à un mur allemand. Est-ce vraiment le cas, Jean Quatremer?
Alors, la question, c'est, s'est-il heurté au mur allemand, ou a-t-il freiné, vous savez, juste avant le mur, un peu comme dans les dessins animés? Alors, parfois, le coyote se prend le mur, et parfois, il arrive à stopper juste avant. Et moi, je crois qu'en fait, François Hollande a stoppé juste avant le mur. C'est vrai que Angela Merkel attendait des réformes, mais il y a des moments, il faut créer aussi des rapports de force. Attendez, ça ne veut pas dire qu'il faut une crise avec l'Allemagne. Évidemment, il faut défendre ses convictions. Or, s'il y a bien une chose que n'a pas fait François Hollande, c'est défendre ses convictions. Une anecdote qui m'a été racontée par un des participants à cette réunion. Ça se passe en décembre 2012, donc il est au pouvoir depuis 6 mois. Et le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy à l'époque, défendait l'idée de créer un budget de la zone euro. Déjà, donc vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein. Et Angela Merkel disait « Nein, nein, nein ». Bon, alors il insistait, Herman Van Rompuy, et en disant, au cours d'une réunion, il y avait la chancelière, François Hollande, le président de la commission, à l'époque c'était Barroso, et puis quelques témoins, dont l'un des acteurs de... Dans la gorge profonde. Et alors, donc il insiste en disant, écoute Angela, dans ce cas-là, donne-moi au moins simplement le mandat qui me permettrait de continuer à étudier la création d'un budget de la zone euro. Et la chancelière, nein, 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 à ce moment-là, François Hollande se tourne vers Herman Van Rompuy, écoute Herman, tu n'as pas entendu la chancelière, elle vient de dire nein. Et il en est sorti bouleversé, en se retrouvant seul, lâché par le président français. Il pensait que le président français allait le défendre et allait dire « il faut continuer à se battre ». François Hollande a renoncé au combat politique. Or, en Europe, c'est pas seulement un combat... C'est pas
technocratique ou eurocratique.
C'est politique. Il faut faire de la politique. Mmh. Et ce qui était intéressant pendant le discours de Macron lundi soir à Berlin, c'est que c'était un discours extrêmement politique. C'est-à-dire qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu un président français faire autant de politique, mais avec des engagements concrets.
Quelques questions de contexte encore, Jean Quatremer, avant de voir la feuille de route européenne de la France. 5 ans après l'accession au pouvoir de François Hollande, Marine Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Le Parti Socialiste fait un score microscopique. Est-ce que l'Allemagne a été sonnée par l'élection française ?
Le secrétaire d'État aux affaires européennes du Land de Hesse. Le Land de Hesse, c'est ce grand Land dont la capitale économique est Francfort, pour vous donner un peu une idée. Donc c'est un Land puissant. À qui je parlais en début de semaine, enfin lundi, me disait, j'avais été, par la première fois de ma vie, les gens dans la rue m'arrêtaient en me disant, qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que la fasciste va passer? Parce qu'en Allemagne, on s'embarrasse pas comme en France de circonlocution pour parler du Front National. Hein. C'est la base de la partie fasciste. Et il dit, j'ai jamais vu une telle passion pour une élection d'un dirigeant étranger. Et pas français, étranger en général. Et je crois que tout le monde était terrifié. Pourquoi les Européens et les Allemands en particulier étaient terrifiés? Parce que si le Front National était passé, mais aussi si le Front Gauche était passé, hein, les deux extrêmes étaient passés, il y avait un risque de Frexit, c'est-à-dire les Français se prononçaient pour une sortie de l'Union européenne, pour une sortie de l'euro. Et là, il y a un soulagement sans nom, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est pris en Europe ce qui s'est passé au second tour de l'élection présidentielle, c'est que c'est un référendum qui a eu lieu contre le Frexit. Je dis pas attention, c'est pas un référendum pour l'Union européenne, c'est pas youpla boum, hein, tout va bien. Non, c'est on n'est pas d'accord. On ne veut pas sortir de l'euro, on ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le différentiel, à mon sens, de la qu'on n'attendait pas. Les 66-34%, personne l'a vu venir. Au milieu de journée, même le dimanche, on disait que ça serait au maximum le 64%. Et on se trouve avec 66. C'est les gens qui ne veulent pas. Les gens qui n'ont pas envie de perdre leurs économies, qui n'ont pas envie de voir revenir l'inflation. Donc le soulagement était mais impressionnant. Tout le monde a eu une peur parce que pour la première fois une élection présidentielle française déterminait le destin non pas seulement de 60 millions de Français mais de 67 millions pardon mais de 500 millions.
Alors je précise ma question Jean Quatremer, est-ce que cette élection étant passée mais ayant eu cette configuration là avec un PS éliminé, les Républicains éliminés, Marine Le Pen au second tour, est-ce qu'il y a en Allemagne une prise de conscience du fait qu'il faut peut-être desserrer les taux sur l'Europe, qu'il faut desserrer les relations entre la France et l'Allemagne, et peut-être tourner la page d'une politique dont on peut se dire qu'elle a produit ça, des tremblements de terre politiques.
Alors là, il y a encore un peu trop tôt. Je pense qu'il y a une partie de la classe politique allemande qui a conscience qu'il va falloir faire des accommodements raisonnables, on va appeler ça comme ça. Mais la grande majorité a quand même le sentiment qu'en gros, les politiques qui sont menées en Allemagne et qui ont amené au succès allemand peuvent être aisément transposables dans les autres pays de l'Union européenne. Le logiciel, je dirais allemand, mais plus généralement le logiciel européen, le logiciel de la Commission européenne, le logiciel du Parlement européen, n'a pas changé. On a eu un exemple, dire le lendemain de l'élection de Macron, vous avez Jean-Claude Juncker qui fait une déclaration qui dit bravo Macron, mais bon, faut réduire vos dépenses publiques, passer de 56% du PIB à 45% sur le modèle allemand. Le surlendemain, vous avez le vice-président de la Commission, le Finlandais Jerki Katainen, qui dit quoi? Le Buy European Act pour privilégier les entreprises européennes sur les marchés publics européens, mais vous n'y pensez même pas, etc., etc. Vous voyez, les choses, les gens n'ont pas encore bien compris ce qui s'était passé.
Mais il va leur falloir quoi pour comprendre.
Et ça c'est une. Je pense que la chancelière, c'est pour ça votre question du départ était mille fois justifiée. Je crois que la chancelière a compris. Elle c'est une pure politique. Elle a vu qu'il y avait un tremblement de terre qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'elle a des élections à venir et qu'elle va pas pouvoir se permettre de tout lâcher dans les trois mois qui viennent. Elle fait de la politique intérieure. Comme le disait Helmut Kohl à François Mitterrand, oui François, moi je suis un vrai Européen, mais pour faire de l'Europe, faut d'abord que je sois au pouvoir. Parce que faire de l'Europe dans l'opposition, c'est hyper fastoche, mais je peux pas le faire. Donc là, je crois que les choses vont commencer petit à petit à se mettre en place. Et après les élections législatives notamment, parce que c'est une explosion effectivement, vous avez raison, du paysage politique européen. C'est vrai en France, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Portugal, c'est vrai en Grèce et ainsi de suite. Et donc pour l'instant, on a chaque fois frôlé la catastrophe et il y a bien un moment ou un autre où il va falloir mettre en place des politiques qui répondent aux angoisses des gens. Et Macron, quand il dit qu'il faut une Europe qui protège, par exemple, avec un Buy European Act, sur le modèle de Buy American Act, eh bien il a raison. Et je crois que petit à petit, les choses vont s'installer. J'espère.
Oui, c'est ça, parce que sinon, ça, on verra. Ouais, c'est bon. Le le chantier de la réforme de l'Union, de la refondation de l'Union, est absolument colossal. Sans même parler, c'est le thème de votre livre, du chantier de l'euroscepticisme ou de l'europhobie, dont on sait que des discours rationnels, des discours que vous tenez aussi parfois, Jean Quatremer, ça n'a aucune prise. C'est deux registres différents, la critique de l'Europe et voilà quels sont les avantages de l'Europe. Ces deux discours sont parallèles et ne se touchent touchent jamais. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro, un ministre du budget de la zone euro sont à même d'inverser ça? Ça va pas faire aimer l'Europe du jour au lendemain, ni même au bout de deux ans. On va dire, attention, usine à gaz.
Alors, l'une des réponses qui a été faite pendant très longtemps par les institutions européennes et par les États, c'était de dire, il faut d'abord délivrer, comme on dit en très bon français, c'est-à-dire produire des résultats, et ensuite, les questions institutionnelles n'est pas fondamentale, c'est pas majeur, ça viendra après. Or, c'est faux. C'est faux. Regardez, aujourd'hui, les pays qui vont très bien en Europe, c'est eux qui produisent le plus d'eurosceptiques. Alors que les pays qui vont très 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 mal, mais je parle pas de la France va très bien, mais bien mieux que n'importe qui dans le monde. Vous allez en Espagne, au Portugal ou en Grèce, je suis désolé, il y a pas de l'europhobie comme il existe chez nous. C'est pas la même chose. C'est ça, les politiques en elles-mêmes ne sont pas suffisantes. Alors moi je pense que les institutions sont nécessaires, la réforme des institutions. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 58, la première chose qu'il fait, c'est il pouvait continuer avec la Constitution de la 4e. Non, il change la Constitution. Parce qu'il sait très bien qu'il y a besoin d'un pouvoir fort pour sortir la guerre d'Algérie, pour relancer l'économie française, etc. Et pour l'Europe, pour moi, c'est la même chose. S'il n'y a pas de contrôle démocratique sur la zone euro, si on laisse les ministres des Finances continuer à prendre leurs décisions à huis clos, des décisions qui impactent votre vie, ma vie et la vie de tous les gens, sans en référer à aucun parlement élu, je suis désolé, on a l'impression d'avoir affaire à une dictature. Et ça, c'est insupportable dans le monde démocratique du 21e siècle. Donc je pense que si on instaure un parlement de la zone euro, vous avez déjà un début de réponse. Alors, ça ne veut pas dire que demain, le Front National va se retrouver à 3%. Ce n'est pas vrai. Mais au moins, les gens vont petit à petit comprendre qu'ils peuvent contrôler que le fait qu'ils votent pour tel ou tel parti, on peut influer les politiques qui vont avoir un impact chez nous. Je veux dire, si on supprimait le Parlement chez nous, vous croyez que les gens seraient contents? Non, ils veulent que notre Parlement ait davantage de pouvoir, que le président de la République soit davantage contrôlé. C'est ça dont ils restent. C'est pour ça qu'ils viennent de faire péter le système.
Il voit le jour quand, ce Parlement de la zone euro, sous quelle forme? Est-ce que ça implique pas des conversations qui sont, je sais pas, enfin même plus de l'ordre du septennat, mais d'une génération? Comment on fait pour instaurer un Parlement de la zone euro?
5 minutes de courage politique, Nicolas de Morant. Oui, 5 minutes de courage politique.
Vous connaissez assez bien Bruxelles pour savoir
oui,
que...
Oui, mais si la France sait ce qu'elle
c'est
veut...
C'est pas souvent le cas.
Oui, mais si la France sait ce qu'elle veut, et l'Allemagne aussi, et que la France tient parole pour une fois, c'est-à-dire tient les 3%, fait ses réformes, relance l'économie, et vraiment, il ne faut pas grand-chose pour que la France retrouve une croissance à faire pâlir d'envie ses voisins. Eh bien, si la France fait tout ça, je pense qu'on peut proposer ce Parlement de la zone euro. Les Allemands sont soucieux de la démocratie. Les Allemands ne veulent pas d'un Parlement de la zone euro pour avoir un Parlement de la zone euro, parce qu'ils disent, c'est dangereux, si on ouvre les traités, eh bien, on risque d'avoir un non en France ou ailleurs s'il y a un référendum. Donc, ils disent, c'est trop dangereux, parce que ça veut dire que ça tue définitivement la zone euro. C'est pour ça que les Allemands sont réticents. C'est pas la démocratie qui leur fait peur. Eux, au contraire, ils ont toujours défendu la démocratie. Les Allemands, à l'inverse des Français qui ont tout fait pour que le Parlement n'existe jamais. Bon, donc les Allemands sont demandeurs, mais ils veulent que le coup, qu'au moment où on tire le coup du Parlement, que le référendum qui suivra, ça sera un référendum positif, parce que pour eux, sinon après, on tire le rideau de fer. Alors, quel type de Parlement? Il y a deux hypothèses. Soit on prend les parlementaires européens actuels, qui sont des pays de la zone euro, donc des 19 pays de la zone euro, et ils se réunissent en Parlement de la zone euro. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Parlement de la zone euro n'est pas un parlement démocratique. Exemple, pour élire un député européen français, il faut 900 000 voix. Pour élire un député européen maltais, il en faut 40 000. Il y a un problème. Donc il faut sortir de ça. Il faut créer, à mon avis, un parlement de la zone euro spécifique, élu en tant que tel, pour contrôler les ministres des Finances. L'autre idée qui est celle de Piketty, c'est qu'on prend, de Thomas Piketty qui était le conseiller donc de Benoît Hamon, c'est qu'on prend des représentants des parlements nationaux et qui se réunissent à Bruxelles. À mon avis, c'est pas une bonne idée parce que on fait pas de la politique européenne une fois tous les deux mois. Voilà, c'est ce que font les chefs d'État de gouvernement et pas avec des réussites particulièrement évidente.
Vous suivez l'Europe, Jean Quatremer, depuis des décennies maintenant. Je suis désolé, c'est la stricte vérité. Depuis des décennies.
Il reste jeune. Hein.
Oui, c'est très notable. Est-ce que dans la décennie qui vient, avant votre retraite méritée, vous verrez ce Parlement de la zone euro?
Mais je pense que ce Parlement ne voit pas le jour dans les 5 ans qui viennent, on peut tirer le rideau de fer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut de la démocratie et une demande générale de démocratie. C'est pas parce que 34% des Français ont voté pour un parti qui n'est ni républicain ni démocrate, le Front National, je parle de lui, je le dis clairement, pour moi c'est un parti fasciste, ça veut pas dire que les gens n'ont pas envie de démocratie. Ils sont révoltés par l'absence de démocratie. Il y a une crise de la démocratie en France. Ils considèrent que notre Parlement n'est pas assez représentatif. En Allemagne, les gens n'ont pas ce problème avec l'Union Européenne. Pourquoi ? Parce que le Bundestag joue son rôle. La chancelière va rendre compte de la politique qu'elle mène devant le Bundestag, demande un mandat au Bundestag avant chaque Conseil Européen. Chez nous, le président, pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut tout seul avec son conseiller diplomatique et son conseiller pour les affaires européennes.
Ça risque pas de changer, là.
J'espère que Emmanuel Macron va comprendre qu'il devra réunir régulièrement le Parlement en congrès. Vous savez, ça, c'est quelque chose qu'avait instauré Sarkozy pour rendre compte de sa politique européenne. Et que le Premier ministre, à la limite, rende compte aussi de la politique européenne, que de temps en temps, il l'envoie à sa place. Pourquoi c'est le chef d'État qui va à Bruxelles, chef d'État qui ne rend compte à personne, qui n'est responsable devant personne pendant 5 ans, qui va siéger au Conseil européen? Moi, je pose la question, pourquoi ne pas envoyer le Premier ministre à Bruxelles, comme dans toutes les démocraties fonctionnelles?
Bonne question. Merci Jean Quatremer.
Merci à vous.
Correspondant du quotidien Libération à Bruxelles, le blog, donc, Les coulisses de Bruxelles, votre dernier livre, Les salauds de l'Europe, chez Calman Lévy, sous-titre Guide à l'usage des eurosceptiques. 18h40, dans quelques instants, le journal de l'International. I'm coming home, Lee Fields and the Expressions, 18h43.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Son los días comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, direction la Jordanie pour un coup de projecteur sur une initiative unique en son genre au Proche et au Moyen-Orient. Ce sont des formations réservées aux femmes et destinées au métier de la plomberie. Dans ce petit royaume religieux très conservateur, une femme ne peut laisser un homme entrer dans sa maison si elle s'y trouve seule, sans son fils ou sans son mari. Voilà donc pourquoi deux ONG ont lancé cette formation dans la petite ville de Zarqa. 30 jeunes femmes ont été formées et aujourd'hui 26 d'entre elles travaillent comme plombiers. Reportage en Jordanie, Angélique Ferrat.
Zarqa, c'est une ville banlieue pauvre, industrielle, à l'est d'Amman. Elle est plus connue pour son camp de réfugiés palestiniens et pour Abu Moussa al-Zarqawi, l'ancien chef d'Al-Qaïda en Irak, que pour ses innovations. Les femmes y restent pour la plupart à la maison. Mariam a le profil type, dirons-nous. Elle était femme au foyer avec 4 enfants. Elle n'avait jamais travaillé. Elle s'était mariée juste après son baccalauréat. Ça, c'est la boîte à outils qu'elle a reçue à la fin de sa formation. Et il y a à peu près tout dedans.
Il y a des clés anglaises, des clés à molette, des clés de serrage, des tournevis. Ils nous ont aussi donné une perceuse, un polissoir. Ils nous ont aussi fourni des cartes de visite, un téléphone et des brochures avec nos tarifs. C'était dur de faire face aux gens sur le terrain. Certains m'ont dit quoi ? Il n'y a plus d'hommes dans ce pays pour que vous deveniez plombier ? Alors je leur répondais, monsieur, asseyez-vous, laissez-moi travailler et ensuite vous verrez. Ils étaient surpris. Ou alors quand j'arrivais avec mon maître de stage sur un chantier, on me faisait remarquer « Mais vous travaillez avec des hommes, ça ne se fait pas ?» Voyez, notre société est très conservatrice, ça n'est pas facile.
La plupart des plombiers jordaniens ont appris sur le tas, n'ont pas de formation. Il n'empêche, faire confiance à une femme, ça n'est pas évident. Raïda, 47 ans, est un tout petit bout de femme. Les gens sont étonnés quand j'arrive en bleu de travail avec ma caisse à outils, dit-elle.
Quand j'étais en stage, mon maître de stage avait peur de me confier des tâches. Alors, dès qu'il s'absentait, j'en profitais pour tout réparer. Et quand il revenait, sa réaction était « T'as fait ça toute seule ?» Je répondais « Bien sûr, je l'ai fait toute seule. J'ai mon diplôme et je suis ici aussi pour apprendre. »
Les clientes, elles, sont, disons, faciles à convaincre. Par exemple, Rania est cliente de Raïda. Elle a tout de suite adopté ce nouveau service.
Quand j'ai un problème de plomberie à la maison, c'est plus simple pour moi d'appeler une femme. Sinon, je dois demander à mon mari d'appeler le plombier, de prendre un jour de congé, ou alors mon fils aîné doit être présent. Mais avec Raïda, c'est plus simple, je peux rester discuter avec elle. Si c'est un homme, je lui montre la panne et je dois le laisser et aller dans une pièce à côté.
Mariam et Raïda réussissent à se faire un salaire mensuel environ de 300 dinars jordaniens. C'est un salaire moyen dans le pays, mais c'est très loin de ce que se font les plombiers hommes. Nos deux plombières admettent qu'elles proposent des tarifs plus bas que leurs collègues masculins, histoire de convaincre. Alors Mariam a une stratégie bien à elle.
C'est vrai que l'idée de départ, c'est d'offrir un service aux femmes. Mais les femmes, c'est un petit pourcentage de ma clientèle. Alors je préfère viser les hommes parce que c'est eux qui décident. Et ce sont les hommes qui disent à leurs épouses « Tu peux laisser entrer cette femme plombier ». Mais s'ils disent « Non, je ne peux pas entrer ». Et au final, qui va me payer ? Ce sont les maris.
Seulement 22% des femmes jordaniennes travaillent, alors qu'elles sont au Moyen-Orient, parmi les plus scolarisées.
Voilà, les combats politiques passent aussi par ce genre de choses et ce genre d'initiatives. Reportage donc d'Angélique Ferrat en Jordanie. Tout autre chose maintenant, on file à Singapour où depuis lundi, en plus de leur traditionnel bonhomme rouge et vert, deux passages piétons disposent d'ampoules LED à même le sol. L'objectif est d'éviter les accidents impliquant les passants qui ne lèvent pas les yeux de leur téléphone et traversent donc à l'aveuglette. Le sujet n'est pas anecdotique, les statistiques disponibles indiquent que les accidents de ce type se compteraient par centaines. Margot Bédé s'est rendue sur les deux zones où sont testés ces passages piétons de nouvelle génération.
Oui, et désormais, en plus de cet avertisseur sonore que vous entendez, les deux passages piétons en question sont équipés d'une bande lumineuse sur le sol. Même principe que le petit bonhomme, la bande lumineuse est rouge, on s'arrête, verte, on traverse, l'avantage, plus besoin de lever la tête. Une aubaine pour Zimin, 33 ans, avec qui j'ai pu discuter. Cette Singapourienne ultra connectée a frôlé plus d'une fois la collision avec une voiture.
Parfois, je me fais klaxonner par des voitures quand elles pensent que je ne fais pas attention lorsque je traverse la route.
Vous utilisez souvent votre téléphone quand vous marchez dans la rue ?
Oui, je l'utilise très très souvent parce que j'aime rester connectée. Mais j'avais pas du tout remarqué les lumières sur le sol. Pourtant, j'utilisais mon smartphone quand j'ai traversé la route.
Il faut dire que la bande lumineuse est assez fine, environ 5 cm. Il en faut donc peut-être un peu plus pour capter l'attention de ces piétons. Un peut en témoigner, cet automobiliste de 45 ans me le disait. C'est très stressant de conduire à Singapour depuis la démocratisation des smartphones.
Une fois, une piétonne a traversé la route. Elle regardait son téléphone. Je l'ai presque renversé. C'est vraiment stressant de conduire à Singapour. Mais les feux sur le sol, personnellement, je ne pense pas que ça va aider. Ça va juste polariser l'attention vers le bas. Ça va même encourager les gens à regarder vers le bas au lieu de regarder autour d'eux. À la fin, on verra plus de personnes tête baissée. Mais peut-être que pour les personnes âgées qui sont tout le temps courbées, ça peut faire sens. Mais pour les utilisateurs de smartphones, j'en doute.
J'ai donc rencontré Lei Peng, ingénieur en chef du bureau d'études de la sécurité routière à Singapour, qui a mis en place ces feux au sol, et je lui ai posé cette question. N'avez-vous pas peur que ces feux attirent le regard vers le sol au lieu d'inviter les gens à lever la tête?
Le but est de ramener l'attention des piétons sur les feux tricolores. Dès lors que leur attention est de nouveau sur ces feux, notre mission est accomplie. Ces nouveaux feux sur le sol sont plus proches d'eux, ils peuvent donc les voir plus distinctement.
Les Singapouriens passent en moyenne 3 heures et 12 minutes sur leur smartphone chaque jour. Et c'est vrai que dans la rue, de nombreuses personnes sont sur leur téléphone portable. Dans le métro aussi, équipé de 4G, beaucoup de Singapouriens sont sur leur mobile. J'ai donc posé la question à Zimin, notre smartphone addict. Pourquoi utilise-t-elle autant son téléphone ?
Je pense que c'est culturel et que c'est ancré en chacun de nous. On veut éviter les conversations avec les étrangers. Je pense que c'est une façon de s'échapper du monde qui nous entoure. Même quand on n'a rien de prévu dans notre agenda, on utilise notre téléphone, juste par envie ou pour faire semblant d'être occupé. Et aussi montrer que nous ne sommes pas seuls.
L'autorité singapourienne des transports publics se donne donc 6 mois pour interroger la population sur ces deux passages cloutés luminescents avant de les généraliser.
3-4 heures de téléphone par jour, moi ça me semble tout à fait raisonnable. Voilà pour ce reportage de Margot Bédé à Singapour. Dans quelques petites minutes, 18h50, l'édito d'Anthony Bélanger.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side.
I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right.
Lou Reed sur Inter, 18h53.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, direction le Yémen, en guerre, où sévit une épidémie de choléra.
Il ne manquait plus que ça et on compte déjà une centaine de morts. Or, vous le savez, hein, le choléra est une maladie extrêmement contagieuse qui passe par l'eau et qui est toujours la conséquence dramatique d'un désordre sanitaire, guerre ou catastrophe naturelle. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un, mais deux pays en état d'urgence sanitaire absolue à cause de la guerre. C'est la Syrie, bien sûr, hein, mais aussi le Yémen. Or, le Yémen, personne n'en parle ou si peu, alors que le Yémen est beaucoup plus peuplé que la Syrie, figurez-vous. 27 millions d'habitants pour le Yémen, 19 millions seulement pour la Syrie. Alors pourquoi ce silence, alors que 17 millions de Yéménites ont faim, qu'une bonne partie risque même la famine, et que la guerre dure depuis 2015? Eh bien, la première réponse est assez évidente, hein. On parle de 500 000 morts en Syrie, il n'y en aurait que, entre guillemets bien sûr, hein, 10 000 au Yémen. La disproportion entre ces deux bilans explique une partie du silence international, mais il y a évidemment d'autres explication à cette indifférence de l'Occident et surtout du monde arabe.
Oui, parce que, Anthony, le monde arabe n'est pas très mobilisé. Hein.
Non, et la première explication est même presque scolaire. Au Yémen, ce sont des sunnites saoudiens qui font la guerre à des chiites houthis. Autrement dit, tant que ce sont des chiites supposément alliés des Syriens, des Iraniens, pardon, hein, qui sont tués par des sunnites, de Rabat à Alger, en passant par le Golfe, Khartoum ou le Caire, personne ne trouve rien à y redire. Quant à l'Occident, eh bien, son alliance avec les sunnites saoudiens, qataris ou émiratis est trop profonde. Est trop ancienne et puis surtout trop monétisée pour être dérangée par une guerre qui, en plus, n'affecte pas ses intérêts vitaux. Je vais vous donner un seul exemple. Dans quelques jours, le président américain Donald Trump se rendra à l'étranger pour la première fois. Eh bien, son premier pays visité, ce sera évidemment l'Arabie Saoudite, qui signera pour l'occasion des contrats d'une valeur de 100 milliards de dollars. Et on parle au total d'une somme ahurissante de 300 milliards de dollars. C'est la richesse produite par an par le Portugal. Pour vous donner un exemple, dépensée dans la prochaine décennies en armement américain. Et c'est loin d'être le seul pays à en profiter.
Et pourquoi les Saoudiens, Anthony, font-ils la guerre au Yémen?
D'abord, les Saoudiens se sont toujours mêlés des affaires de leurs voisins yéménites. En fait, le Yémen, c'est le vrai cœur de la péninsule arabique. C'est l'Arabia Felix, vous savez, des Romains. L'Arabie heureuse, fertile, très peuplée, carrefour commercial millénaire. Mais depuis qu'on a trouvé du pétrole chez les voisins saoudiens, c'est-à-dire depuis un siècle, c'est l'Arabie Saoudite et ses pétrodollars qui ont pris le dessus. Donc rien de ce qui se passe chez ce voisin yéménite, qu'on jalouse depuis toujours, ne se décide sans parrainage saoudien. Mais la vraie raison est ailleurs, figurez-vous. Si l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen, c'est par principe. Cette guerre a commencé comme une guerre civile en 2014 et elle s'est saoudisée quelques semaines après l'intronisation en janvier 2015 du nouveau roi Salman. Autrement dit, la guerre au Yémen est un acte d'affirmation d'un nouveau pouvoir en inaugurant son règne par des bombardements. Le roi Salman et surtout son fils, le vice-prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a 31 ans, eh bien, marque leur territoire.
Donc il y a peu de chances qu'elle s'arrête, cette guerre.
C'est exactement ça. Il y a une dernière chose pour que cette guerre, qui montre que cette guerre ne s'arrêtera pas de sitôt, eh bien, l'incurie crasse et donc la cruauté de l'armée saoudienne, incapable d'aligner des hommes sur le terrain. Les Saoudiens ont enrôlé des milliers de mercenaires africains et singulièrement soudanais. Eux ne font que bombarder les Saoudiens, à l'image des États-Unis, vous savez, en Syrie ou en Irak, mais avec plus de violence encore, plus de cruauté. Le tout en s'alliant avec tout ce qui est sunnite au Yémen, c'est-à-dire Al-Qaïda par exemple, et oui, Al-Qaïda qui tient pourtant quelques villes et territoires au Yémen.
Anthony Bélanger, merci. Juste après le journal à 19h20, ce sera le Téléphone Sonne Europe ce soir en direct de Strasbourg. Donnez-nous le programme, mon cher Stéphane Leneuf.
Écoutez Nicolas, vous savez que nous avons un nouveau président qui, paraît-il, veut refonder l'Europe, la remettre en marche, remettre en marche ce projet européen. Alors au-delà des mots, au-delà de la volonté politique, du discours résolument pro-européen de ce jeune président, on va se poser beaucoup de questions ce soir. La première, quelles sont les vraies marges de manœuvre dont il dispose pour mettre tout cela en application, surtout vis-à-vis de l'Allemagne et d'Angela Merkel qu'il a rencontré hier. Hier, ils ont fait un constat, l'Europe vit un moment critique. Alors est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir remettre la France au cœur de l'Europe? C'est aussi une des questions que je vous propose de poser ce soir. Intervenez au 01 45 24 7000 dès 19h20, Nicolas.
Merci mon cher Stéphane, rendez-vous après le journal. Si vous aimez le courrier électronique, c'est sur franceinter.fr. Les réseaux sociaux, Twitter avec le mot-clé Telson.